Chapitre 9. La Pâque dans le désert. Et l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, disant : Que les fils d'Israël fassent aussi la Pâque au temps fixé. Vous la ferez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la ferez selon tous ses statuts et selon toutes ses ordonnances. Et Moïse dit aux fils d'Israël de faire la Pâque. Et ils firent la Pâque le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, au désert de Sinaï. Selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, ainsi firent les fils d'Israël. Versets 1 à 5. Il y a trois endroits distincts où nous voyons célébrer cette grande fête de la rédemption. En Égypte, Exode 12, dans le désert, Nombre 9, et dans la terre de Canaan, Josué 5. La rédemption se trouve à la base de tout ce qui a rapport à l'histoire du peuple de Dieu. Doit-il être délivré de la servitude et des ténèbres de l'Égypte? C'est par la rédemption. Doit-il être porté à travers toutes les difficultés et tous les dangers du désert? C'est sur le principe de la rédemption. Doit-il affronter les murs menaçants de Jéricho et mettre ses pieds sur le cou des rois de Canaan? C'est en vertu de la rédemption. Ainsi, le sang de l'agneau pascal rencontra le peuple de Dieu au milieu de la profonde dégradation du pays d'Égypte et l'en délivra. Il le trouva dans le désert aride au travers duquel il le conduisit. Il fut avec lui à son entrée dans la terre de Canaan et l'y établit. Ce sang était le fondement de toutes les voies de Dieu envers eux. Quand nous contemplons l'Éternel venant agir en faveur de son peuple en vertu du sang de l'agneau, tout est infailliblement garanti du commencement à la fin. Un problème. Ce chapitre-ci nous présente la Pâque au point de vue du désert, et cela explique pourquoi il y est fait mention de l'impureté. Il y eut des hommes qui étaient impurs à cause du corps mort d'un homme, et qui ne pouvaient pas faire la Pâque ce jour-là, et ils se présentèrent ce jour-là devant Moïse et devant Aaron. Verset 6. Il y avait là une difficulté pratique, un cas imprévu. C'est pourquoi la question fut soumise à Moïse et à Aaron. Ils se présentèrent devant Moïse, le représentant des droits de Dieu, et devant Aaron, le représentant des ressources de la grâce de Dieu. Les deux éléments, dont ses serviteurs étaient l'expression, sont importants pour la solution de la difficulté qui s'offrait ici. Et ces hommes lui dirent : Nous sommes impurs à cause du corps mort d'un homme, pourquoi serions-nous exclus de présenter l'offrande de l'Éternel au temps fixé au milieu des fils d'Israël ? Verset 7. La souillure était entièrement avouée. Devait-il être absolument privé du privilège de venir devant l'Éternel ? N'y avait-il aucune ressource pour un pareil cas ? Question extrêmement intéressante, assurément, mais à laquelle, cependant, aucune réponse n'avait été prévue dans l'institution originelle en Exode 12. C'était pour le désert que le développement de cette question avait été réservé. C'était dans la marche, dans les détails réels et pratiques de la vie du désert, que se présentait la difficulté. Voilà pourquoi le récit de toute cette affaire est fort à propos dans les Nombres, qui sont le livre du désert. Et Moïse leur dit : Tenez-vous là, et j'entendrai ce que l'Éternel commandera à votre égard. Verset 8. Belle attitude. Moïse n'avait pas de réponse à donner, mais il savait qui pouvait le faire. Et c'est à lui qu'il s'adresse. C'était la meilleure chose et la plus sage que Moïse puisse faire. Il n'a pas honte de dire « Je ne sais pas ». Malgré toute sa sagesse et toute sa connaissance, il n'hésite pas à déclarer son ignorance. C'est la vraie connaissance, la vraie sagesse. Il pouvait être humiliant pour un homme dans la position de Moïse de paraître ignorant. Lui qui avait mené le peuple hors d'Égypte, qui l'avait conduit à travers la mer Rouge, qui avait conversé avec l'Éternel et qui avait reçu sa mission de lui, était-il possible qu'il soit incapable de répondre à une difficulté surgissant d'un cas aussi simple que celui qui se présentait ici? Cependant, Moïse, l'homme le plus doux de toute la terre, n'avait pas la présomption de parler quand il n'avait rien à dire. Si nous suivions plus fidèlement son exemple en cela, nous éviterions beaucoup d'affirmations hasardeuses, bien des méprises et des erreurs. En outre, cela nous rendrait beaucoup plus vrai, plus simple et plus naturel. Nous sommes souvent assez insensés pour avoir honte de montrer notre ignorance. Nous nous imaginons que nous portons atteinte à notre réputation de sagesse et d'intelligence quand nous disons « je ne sais pas ». C'est une erreur. On attache généralement plus de poids et d'importance aux paroles d'un homme qui ne prétend pas à une connaissance qu'il ne possède pas, tandis qu'on est peu disposé à écouter un homme toujours prompt à parler avec confiance en lui-même. Oh, marchons en tout temps selon l'esprit de ces belles paroles, tenez-vous là, et j'entendrai ce que l'Éternel commandera. La Pâque au second mois. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël en disant, « Si un homme d'entre vous, ou de votre postérité, est impur à cause d'un corps mort, ou est en voyage au loin, il fera la Pâque à l'Éternel. Ils la feront le second mois, le 14e jour, entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. » Versets 9 à 11. Deux grandes vérités sont présentées dans la Pâque, savoir la rédemption et l'unité du peuple de Dieu. Ces vérités sont invariables. Rien ne saurait les détruire. Il peut y avoir chute et infidélité sous des formes variées, mais ces glorieuses vérités de la rédemption éternelle et de la parfaite unité du peuple de Dieu conservent toute leur force et toute leur valeur. Voilà pourquoi cette ordonnance, qui représentait si vivement ces vérités, était continuellement obligatoire. Les circonstances ne devaient pas en empêcher l'exécution. La mort ou la distance ne devaient pas l'interrompre. Si un homme d'entre vous ou de votre postérité est impur à cause d'un corps mort ou est en voyage au loin, il fera la Pâque à l'Éternel. Verset 10. Il était nécessaire que chaque membre de la congrégation célèbre cette fête. Une mesure spéciale dans ce but est donc prise ici pour ceux qui n'étaient pas en état de l'observer selon l'ordre prescrit. Ces personnes devaient l'observer le 14e jour du second mois. Ainsi, la grâce pourvoyait au cas inévitable de mort et d'éloignement. Dans le chapitre 30 du second livre des Chroniques, on voit qu'Ézéchias et la congrégation avec lui ont profité de cette miséricordieuse ressource. Il s'assembla à Jérusalem une grande multitude de peuples pour célébrer la fête des pains sans levain, au second mois, une très grande congrégation. Et on égorgea la Pâque le 14e jour du second mois. Versets 13 à 15. La grâce de Dieu peut nous rencontrer dans la plus grande faiblesse, pourvu que nous la sentions et que nous la confessions. Mais que cette vérité très précieuse ne nous fasse pas traiter légèrement le péché ou la souillure. La grâce permettait le second mois au lieu du premier, mais elle ne tolérait aucun relâchement dans les ordonnances et dans les cérémonies de la fête. Les pains sans levain et les herbes amères devaient toujours avoir leur place. La chair d'aucun sacrifice ne devait être conservée jusqu'au matin, et pas un os de la victime ne devait être brisé. Dieu ne peut nullement tolérer l'abaissement de la règle de la vérité ou de la sainteté. L'homme, par sa faiblesse, ses manquements, ou en raison des circonstances, pourrait être en retard, mais il ne doit pas rester au-dessous de la mesure divine. La grâce permet la première chose, la sainteté défend la seconde. Et si quelqu'un avait abusé de la grâce pour se dispenser de la sainteté, il aurait été retranché de l'assemblée. La grâce n'abaisse en rien la mesure divine. Cela ne nous dit-il rien ? Nous devons toujours nous rappeler, en lisant les pages de ce merveilleux livre des Nombres, que les choses qui arrivaient à Israël sont des types pour nous, et que c'est à la fois notre devoir et notre privilège de nous attacher à ces types et de chercher à comprendre les leçons qu'ils nous enseignent de la part de Dieu. Qu'est-ce donc que nous apprennent les ordonnances relatives à la célébration de la Pâque au second mois? Pourquoi était-il spécialement enjoint à Israël de n'omettre aucune cérémonie dans cette occasion particulière? Pourquoi, dans ce chapitre 9 des Nombres, les directions pour le second mois se trouvent-elles beaucoup plus détaillées que celles pour le premier? Ce n'est certainement pas que l'ordonnance ait été plus importante dans un cas que dans l'autre. Néanmoins, lorsqu'il est question de la célébration de la Pâque au premier mois, nous lisons simplement ces mots « Vous la ferez selon tous ses statuts et selon toutes ses ordonnances. » Verset 3. Mais quand il s'agit du second mois, nous avons un énoncé plus détaillé de ce qu'étaient ces ordonnances et ces cérémonies. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et n'en casseront pas un os. Ils la feront selon tous les statuts de la Pâque. Versets 11 et 12. Ceci nous enseigne non seulement que nous ne devons jamais abaisser la règle dans les choses de Dieu, à cause de la chute et de la faiblesse du peuple de Dieu, mais que, pour cette raison même, nous devons prendre un soin particulier à la respecter. On ne doit pas sacrifier la vérité de Dieu. Nous pouvons toujours compter sur les ressources de la grâce divine, tout en cherchant à maintenir, avec une fermeté inébranlable, la bannière de la vérité de Dieu. D'un côté, nous sommes en danger d'oublier que la chute a eu lieu. Oui, une grande chute, l'infidélité et le péché. Et d'un autre côté, nous risquons d'oublier l'infaillible fidélité de Dieu en vue de cette chute et en dépit de tout. L'Église professante est tombée, elle est dans une ruine complète. Et non seulement elle, mais nous-mêmes, individuellement, nous avons failli et contribué à la ruine. Nous devrions sentir tout cela. Le sentir profondément, le sentir constamment. Nous devrions avoir toujours dans notre esprit, devant notre Dieu, la conscience intime et humiliante de la manière triste et honteuse dont nous nous sommes conduits dans la maison de Dieu. Nous ne ferons qu'ajouter à notre chute si nous oublions que nous sommes tombés. Ce qu'il nous convient d'avoir, c'est une profonde humilité et un esprit vraiment brisé, en nous souvenant de toutes ces choses. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. 2 Timothée 2, verset 19. Voilà la ressource du fidèle en présence des ruines de la chrétienté. Dieu ne fait jamais défaut, il ne change pas, et nous avons simplement à nous retirer de l'iniquité et à nous tenir collés à lui. Nous devons faire ce qui est droit et lui abandonner les conséquences. Retenons bien les deux faces du sceau. Cela nous aidera grandement à trouver notre chemin au milieu des ruines qui nous entourent. Le souvenir de la condition de l'Église et de notre infidélité individuelle est propre à nous garder dans l'humilité. En même temps, la connaissance des principes invariables de Dieu et de son immuable fidélité a pour effet de nous détacher du mal qui nous environne et de nous maintenir fermes dans le sentier de la séparation. Les deux choses réunies nous préserveront d'une vaine prétention d'un côté, du relâchement et de l'indifférence de l'autre. Ce sont les leçons par excellence du désert, des leçons pour nous. Elles nous sont données par le récit particulier du livre des Nombres, le livre du désert. C'est dans le désert que la chute de l'homme se manifeste si pleinement. C'est dans le désert aussi que les ressources infinies de la grâce divine sont déployées. Mais répétons encore que les plus riches provisions de la grâce et de la miséricorde divine ne donnent aucun motif pour abaisser la règle de la vérité de Dieu. Négligence à l'égard de la Pâque. Mais l'homme qui est pur et qui n'est pas en voyage, qui s'abstient de faire la Pâque, cette âme sera retranchée de ses peuples, car il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme portera son péché. Et si un étranger séjourne chez vous et veut faire la Pâque à l'Éternel, il la fera ainsi, selon le statut de la Pâque et selon son ordonnance. Il y aura un même statut pour vous, tant pour l'étranger que pour l'Israélite de naissance. Versets 13 à 14. L'oubli volontaire de la Pâque aurait dénoté de la part des Israélites un manque total d'estime pour les bénédictions qui découlaient de la rédemption et de la délivrance du pays d'Égypte. Plus quelqu'un réalisait ce qui avait été accompli dans cette nuit mémorable, où l'assemblée d'Israël avait trouvé son refuge et son repos à l'abri du sang, plus aussi il se réjouissait du retour du 14e jour du premier mois, dans lequel il pouvait faire la commémoration de cette glorieuse circonstance. Et si quoi que ce soit l'empêchait de le faire au premier mois, il profitait avec bonheur de le faire au second mois. Mais l'homme qui se serait contenté de continuer d'année en année à ne pas célébrer la Pâque aurait montré que son cœur était bien éloigné du Dieu d'Israël. Ne pouvons-nous pas, jusqu'à un certain point, appliquer tout cela à la scène du Seigneur? Il y a cette connexion entre la Pâque et la scène, que la première est le type et la seconde le mémorial de la mort du Christ. Ainsi nous lisons en 1 Corinthiens 5, verset 7, « Notre Pâque, Christ, a été sacrifié. » La Pâque était le mémorial du rachat d'Israël de l'esclavage d'Égypte, et la scène du Seigneur est le mémorial de notre rachat de l'esclavage du péché et de Satan. Aussi, comme on pouvait voir chaque vrai et fidèle Israélite faire la Pâque, à l'époque fixée, selon toutes les ordonnances et les cérémonies de cette fête, de même, on verra chaque vrai et fidèle chrétien célébrer la scène du Seigneur au jour déterminé et selon tous les principes qui s'y rapportent et qui sont exposés dans le Nouveau Testament. Si un Israélite avait négligé la Pâque, même dans une seule occasion, il aurait immédiatement attiré sur lui le jugement de Dieu. Est-ce une affaire de peu d'importance pour des chrétiens que de négliger de semaine en semaine et de mois en mois la scène de leur Seigneur? Celui qui, en nombre 9, déclarait que l'Israélite qui négligerait la Pâque serait retranché, ne tiendrait-il pas compte de la négligence du chrétien à l'égard de la table du Seigneur? Il n'est bien sûr pas question d'être retranché de l'Église de Dieu, du corps de Christ, mais cela n'autorise pas notre négligence. Cela devrait avoir pour effet de nous animer d'une plus grande diligence dans la célébration de cette précieuse fête, dans laquelle nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, verset 26. La valeur de la scène. Pour un Israélite pieux, il n'y avait rien de plus beau que la Pâque, parce qu'elle était le mémorial de sa rédemption. Et pour un chrétien pieux, il n'y a rien de plus beau que la scène, parce qu'elle est le mémorial de sa rédemption et de la mort de son Seigneur. De tous les services auxquels le chrétien peut se livrer, il n'est rien de plus précieux, rien de plus expressif, rien qui place Christ d'une manière plus touchante et plus solennelle devant son cœur que la scène du Seigneur. Il peut chanter la mort du Seigneur, il peut prier à son sujet, il peut en lire le récit, il peut en entendre parler, mais c'est seulement dans la scène qu'il l'annonce. Et ayant pris un pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même la coupe aussi après le souper en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Luc 22, versets 19 et 20. Ici, nous avons l'institution de la fête. Quand nous en venons aux Actes des apôtres, nous lisons « Le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain. » Actes 20, verset 7. Là, nous avons la célébration de la fête. Enfin, quand nous ouvrons les épîtres, nous lisons « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ ? Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. » 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. Et encore « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Nous avons ici l'explication de la fête. D'où vient que des membres de Christ peuvent passer des semaines et des mois ou même toute leur vie sans jamais se souvenir de leur Seigneur conformément à son vœu si clairement exprimé? Il devrait y avoir dans le cœur du chrétien une réponse d'amour correspondant à l'amour de Christ. Ne devrions-nous pas chercher à répondre à l'amour d'un tel cœur? Si notre adorable Seigneur a réellement institué le pain et le vin dans la scène, comme mémorial de son corps meurtri et de son sang répandu, s'il a ordonné que nous mangions de ce pain et que nous buvions de cette coupe en mémoire de lui, ne devrions-nous pas, dans une vraie affection, répondre au désir de son cœur? Ce devrait toujours être une joie pour nos cœurs que d'entourer la table de notre Seigneur, de nous souvenir de lui, d'annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. N'est-il pas merveilleux de penser qu'il ait voulu occuper une place dans le souvenir de cœurs tels que les nôtres? Ce serait vraiment triste si, pour un motif quelconque, nous négligions cette fête à laquelle il a attaché son nom précieux. Attentif au mouvement de la nuée. Abordons maintenant le dernier paragraphe de notre chapitre. Nous y contemplons une nombreuse troupe d'hommes, de femmes et d'enfants voyageant à travers un vaste désert où il n'y avait pas de chemin, sans boussole et sans guide humain. Il y avait là des millions d'êtres s'avançant sans aucune connaissance de la route qu'ils devaient suivre, dépendant entièrement de Dieu pour la leur faire connaître. Ils ne pouvaient former aucun plan pour le lendemain. Quand ils campaient quelque part, ils ne savaient pas quand ils devraient s'en aller. Et quand ils étaient en marche, ils ne savaient pas où ils feraient halte, ni quand ils la feraient. Leur vie était une vie de dépendance journalière et de chaque heure. Ils devaient regarder en haut pour être guidés. Et le jour que le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle de la tente du témoignage, et elle était le soir sous le tabernacle comme l'apparence du feu jusqu'au matin. Il en fut ainsi continuellement. La nuée le couvrait, et la nuit elle avait l'apparence du feu. Et selon que la nuée se levait de dessus la tente, après cela les fils d'Israël partaient. Et au lieu où la nuée demeurait, là les fils d'Israël campaient. Au commandement de l'Éternel, les fils d'Israël partaient, et au commandement de l'Éternel, ils campaient. Pendant tous les jours que la nuée demeurait sur le tabernacle, ils campaient. Et si la nuée prolongeait sa demeure sur le tabernacle plusieurs jours, alors les fils d'Israël gardaient ce que l'Éternel leur avait donné à garder, et ne partaient pas. Et s'il arrivait que la nuée fût sur le tabernacle peu de jours, ils campaient au commandement de l'Éternel, et au commandement de l'Éternel ils partaient. Et s'il arrivait que la nuée y fût depuis le soir jusqu'au matin, et que la nuée se leva au matin, alors ils partaient. Ou si, après un jour et une nuit, la nuée se levait, ils partaient. Ou si la nuée prolongeait sa demeure pendant 2 jours, ou 1 mois, ou beaucoup de jours sur le tabernacle, pour y demeurer, les fils d'Israël campaient et ne partaient pas. Mais quand elle se levait, ils partaient. Au commandement de l'Éternel ils campaient, et au commandement de l'Éternel ils partaient. Ils gardaient ce que l'Éternel leur avait donné à garder, selon le commandement de l'Éternel, par Moïse. Versets 15 à 23. Nous avons là un tableau admirable de la dépendance absolue de la direction divine et de la soumission à cette direction. Il n'y avait pas une empreinte de pas ou une borne dans tout ce grand et affreux désert. Il était donc inutile de chercher aucune direction auprès de ceux qui étaient passés précédemment. Les fils d'Israël devaient compter entièrement sur Dieu pour chaque pas du chemin. Ils devaient continuellement s'attendre à lui. Marcher d'une telle manière est intolérable pour un esprit insoumis ou pour une volonté non brisée. Mais pour celui qui connaît et aime Dieu, pour celui qui se confie en lui, c'est le secret d'une vie paisible et heureuse. Voici la clé de tout le sujet. Dieu est-il connu, aimé, et se confie-t-on en lui? Esclavage et liberté. L'homme non régénéré aime son indépendance. Il se figure qu'il est libre. Il aime à croire qu'il peut faire ce qui lui convient, aller où il veut, dire ce qui lui plaît. Mais c'est une pure illusion. Il n'est pas libre. Il est l'esclave de Satan. Dès le jardin d'Éden, il s'est livré lui-même entre les mains de ce grand propriétaire d'esclaves qu'il a toujours tenu et qui le tient encore. Oui, Satan tient l'homme naturel, l'inconverti, dans une terrible servitude. Il lui a lié les pieds et les mains de chaînes qui n'apparaissent pas d'emblée sur leur véritable aspect à cause de la dorure dont il les a adroitement recouvertes. Satan gouverne l'homme au moyen de ses convoitises, de ses passions et de ses plaisirs. Il produit dans le cœur des désirs qu'il satisfait ensuite par les choses qui sont dans le monde, et l'homme s'imagine qu'il est libre parce qu'il peut satisfaire ses désirs. Mais c'est une terrible erreur qui se démontre tôt ou tard. Il n'y a pas d'autre liberté que celle que Christ donne à ses rachetés. C'est lui qui dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et encore, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, versets 32 et 36. Voilà la vraie liberté. C'est celle que le nouvel homme trouve en marchant par l'esprit et en faisant ce qui est agréable à Dieu. Le service du Seigneur est la parfaite liberté. Mais ce service, dans tous les détails, implique la plus entière dépendance du Dieu vivant. Il en a toujours été ainsi, chez le seul vrai et parfait serviteur qui ait foulé cette terre. Notre Seigneur a toujours été dépendant. Chacun de ses mouvements, chacun de ses actes, chacune de ses paroles, tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il ne faisait pas, tout était le fruit d'une dépendance absolue de Dieu, d'une entière soumission. Il marchait quand Dieu voulait qu'il marche, et il s'arrêtait quand Dieu le voulait. Il parlait ou gardait le silence selon que Dieu le trouvait bon. Tel a été Jésus dans ce monde. Quant à nous, qui sommes participants de sa nature et de sa vie, et qui avons son esprit demeurant en nous, nous sommes appelés à marcher sur ses traces et à vivre d'une vie de dépendance de Dieu chaque jour. Nous passons à travers un désert moral, où il n'y a pas de chemin. Nous ne saurions comment marcher, et nous ne saurions pas où aller, si nous n'avions pas le chemin que nous offre notre bien-aimé Sauveur. Il peut dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et « Je suis le chemin. » Jean 8, verset 12 et 14, verset 6. C'est une direction vivante. Il ne s'agit pas de marcher selon certaines ordonnances ou certaines règles. Il s'agit de suivre un Christ vivant en marchant comme il l'a marché, en faisant ce qu'il a fait, en imitant son exemple en toutes choses. Telle est la marche chrétienne. Elle consiste à tenir les yeux fixés sur Jésus et, les traits de son caractère étant imprimés dans notre nouvelle nature, à les refléter et les reproduire dans notre vie journalière. Cela implique le complet renoncement à notre volonté propre, à nos plans, à notre moi. Nous ne pouvons pas dire « Nous irons ici ou là, nous ferons ceci ou cela, demain ou la semaine prochaine. » Tous nos projets doivent être marqués par cette condition que nous prononçons trop souvent à la légère « Si le Seigneur le veut. » Jacques 4, verset 15. La volonté de Dieu est notre propre volonté. Il peut nous arriver de nous imaginer ou même d'affirmer avec assurance que la nuée marche dans la direction qui s'accorde avec nos propres désirs. Voulons-nous faire une certaine chose ou suivre un certain chemin? Alors nous cherchons à nous persuader que notre volonté est celle de Dieu. Ainsi, au lieu d'être guidés par Dieu, nous nous séduisons nous-mêmes. Notre volonté n'est pas brisée, et par conséquent, nous ne pouvons pas être dirigés droitement. Car le vrai secret pour être guidé droitement, guidé par Dieu, c'est d'avoir notre propre volonté complètement soumise. Il fera marcher dans le droit chemin les débonnaires, et il enseignera sa voie aux débonnaires. Psaume 25, verset 9. Dieu nous dit « Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. » Mais pesons son avertissement. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le mors, pour les réfréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Psaume 32, versets 8 et 9. Si nos yeux sont tournés en haut pour saisir le mouvement de l'œil de Dieu, nous n'aurons pas besoin de la bride et du mors. Mais c'est précisément en ceci que nous manquons si facilement. Nous ne vivons pas assez près de Dieu pour discerner le mouvement de son œil. Notre volonté est à l'œuvre. Nous voulons suivre notre propre chemin et nous devons ensuite en moissonner les fruits amers. C'est ce qui arriva à Jonas. Il lui avait été ordonné d'aller à Ninive, mais il voulut aller à Tarsis, et les circonstances semblaient favoriser la direction que sa volonté avait choisie. Mais ce chemin l'a conduit dans le ventre du poisson. C'est là qu'il a pris l'amertume qu'il y a à suivre sa propre volonté. Mais notre Dieu est miséricordieux, si patient. Il veut enseigner et guider ses pauvres enfants. Il s'occupe continuellement de nous, afin que nous soyons gardés de nos propres voies qui sont pleines d'épines et de ronces, et que nous marchions dans ces voies qui sont agréables et dans ces sentiers qui sont paix. Proverbe 3, verset 17. Encourageons-nous à mener une vie de dépendance habituelle de Dieu. Attendons-nous à lui, et attachons-nous à lui pour toutes choses. Avoir toutes ses sources en lui, c'est le vrai secret de la paix. L'âme qui peut dire en vérité « toutes mes sources sont en toi. Psaume 87, verset 7. Est élevé au-dessus de toute confiance en la créature, au-dessus des espérances humaines et des attentes terrestres. Ce n'est pas que Dieu ne se serve pas des créatures, de mille manières, pour nous assister. Il emploie la créature, mais si nous nous appuyons sur elle plutôt que sur lui, nous éprouverons bientôt dans nos âmes de la maigreur et de la stérilité. Il y a une immense différence entre l'usage que Dieu fait de la créature pour nous bénir et notre appui sur la créature à l'exclusion de Dieu. Dans un cas, nous sommes bénis et il est glorifié. Dans l'autre, nous sommes désappointés et il est déshonoré. Prenons garde. Nous nous imaginons souvent que nous nous appuyons sur Dieu et que nous regardons à lui, alors que si nous nous jugions réellement en sa présence, nous trouverions en nous beaucoup de confiance en la créature. Nous parlons de vivre par la foi et de ne nous confier qu'en Dieu, quand, en même temps, nous avons recherché mille appuis terrestres et humains. Veillons à ce que notre œil soit fixé sur le seul Dieu vivant et non sur l'homme. Attendons-nous à lui. Attendons patiemment, constamment. Si nous manquons de quoi que ce soit, adressons-nous directement et simplement à lui. Sentons-nous le besoin de discerner notre chemin pour savoir de quel côté nous devons nous tourner? Quel sentier nous devons suivre? Rappelons-nous qu'il a dit « Je suis le chemin ». Suivons-le. Il rendra tout clair, lumineux et certain. Il ne peut y avoir de ténèbres, de perplexité, d'incertitude si nous le suivons, car il a dit « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres ». Dieu conduit ceux qui cherchent à suivre Jésus avec un œil simple. L'embarras et l'incertitude sont très souvent le fruit du travail de la propre volonté. Nous désirerions faire ce que Dieu ne veut pas du tout que nous fassions, aller où Dieu ne veut pas que nous allions. Nous le prions à cet effet et nous ne recevons pas de réponse. Nous prions de nouveau et il n'y a toujours pas de réponse. D'où vient cela? Du simple fait que Dieu veut que nous nous tenions tranquilles, que nous demeurions précisément là où nous sommes. Alors, au lieu de nous creuser l'esprit et de nous tourmenter sur ce que nous devrions faire, attendons-nous simplement à Dieu. Voilà le secret de la paix et d'une heureuse communion. Si un Israélite dans le désert s'était mis en tête de faire quelques mouvements indépendamment de l'Éternel, s'il avait pris sur lui de partir quand la nuée était au repos, ou de s'arrêter quand la nuée était en marche, nous pouvons imaginer quel en aurait été le résultat. Or, il en sera toujours ainsi de nous. Si nous marchons quand nous devrions demeurer en repos, ou si nous nous reposons quand nous devrions marcher, nous n'aurons pas avec nous la présence de Dieu. Au commandement de l'Éternel, les fils d'Israël campaient, et au commandement de l'Éternel, ils partaient.